sepakat tuh. Buat dia. Si vous voulez avoir une bonne santé, vous avez intérêt à manger sain, c'est-à-dire à faire attention à la nourriture que vous mangez. Manger à tout moment ou manger n'importe quoi expose à divers problèmes de santé ou des carences de certaines protéines ou vitamines et même cela peut amener des maladies graves. Cela donc demande une discipline et une hygiène de vie. Dans une région donnée et selon le climat, Dieu a pourvu pour une nourriture appropriée qui correspond à ces milieux pour faire face aux conditions de vie de cette région. Tout ne pousse pas n'importe où, car il faut un climat et une atmosphère. En Afrique, par exemple, ne pousse qu'un certain type d'arbres fruitiers ou un type de végétation comestible qui vous permette d'affronter les conditions d'Afrique. Prendre cela et venir les planter en Europe pour produire la nourriture pose souvent des problèmes. Ils essayent de reproduire en effet les conditions d'Afrique dans des serres pour produire cela. Mais c'est souvent compliqué car l'atmosphère qu'ils essayent de créer est différente, reste quand même différente de celle de l'Afrique. Bien. Et donc, les fruits qu'on peut en tirer ont des caractéristiques différentes de ce qui est produit en Afrique. Alors cela devient dénaturé. Le goût est différent parce que les constituants nutritionnels ne sont pas toujours originaux. D'autre part, les fruits qui viennent d'Afrique mûrissent étant déjà arrachés à l'arbre. Ils sont donc conditionnés ainsi et envoyés en Europe. C'est comme ça que vous avez des fruits en et en dehors des saisons. Un fruit qui n'a pas mûri dans les conditions originelles vous posera tôt ou tard des problèmes, car un fruit qui mûrit au soleil n'est pas la même chose ni n'a la même saveur qu'un fruit qui mûrit sous serre. Et on se demande parfois pourquoi il y a tant de maladies qui n'étaient pas ou qui n'existaient pas avant et qu'on voit maintenant. Cela affaiblit les systèmes immunitaires dans le sens où résister par exemple à des conditions d'Europe en mangeant seulement la nourriture d'Afrique ou venant d'Afrique peut poser des problèmes. C'est bien pour le commerce, mais quelles sont les conséquences pour la santé? Car les conditions et les climats de l'Afrique sont différents. C'est souvent ce qui arrive lorsqu'on rentre en Afrique. Tu changes de milieu, tu changes de nourriture, et le corps doit s'adapter au nouveau régime alimentaire d'Afrique. Et cela vous amène parfois des constipations, des diarrhées ou autres troubles intestinaux. Pourquoi? Parce qu'à chaque milieu, il y a un type de nourriture appropriée, adaptée au climat de ces milieux. Il faut donc manger les produits du milieu dans lequel on vit. Dieu a pourvu pour chaque pays ou chaque région la nourriture adaptée pour cette raison. Il sait pourquoi. Ce qu'on mange joue un rôle important pour l'équilibre mental, intellectuel, physique, émotionnel et spirituel. Nous allons lire dans Nombre 11. Nombre 11. À partir du verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Prions. Père, merci encore pour cette portion d'écriture qui a été lue. Maintenant, nous nous attendons à toi, Père, pour nous éclairer, pour nous conduire, Père éternel, au Dieu, afin de saisir, au Dieu de miséricorde, l'essence même, Père éternel, au Dieu, de ce que tu nous amènes aujourd'hui à entendre. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir, merci. Ici, nous avons un peuple qui est sorti de l'Égypte et qui se trouve maintenant dans les déserts en route pour la terre promise. En Égypte, il y avait un certain environnement et ils mangeaient un certain type de nourriture. Ils le citent eux-mêmes, ils parlent de la viande, du poisson, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Cette nourriture était certainement bonne et délicieuse pour l'Égypte et cela ne leur coûtait rien. Mais ils étaient dans la servitude. Ils ne savaient pas que Pharaon les nourrissait ainsi parce qu'il avait besoin de leur force pour construire son royaume. Ils étaient prisonniers d'un système qui les avait asservis et leur esprit l'était aussi. Car si vous n'êtes pas libéré spirituellement ou intellectuellement, votre libération physique ne vous servira d'aucun secours. Car tout part de l'esprit. Ce sont les mêmes personnes qui avaient prié pour leur délivrance, mais maintenant ils veulent retourner dans la servitude. Car penser à la nourriture d'Égypte nous montre que l'Égypte était encore en eux. Et tant que l'Égypte était encore en eux, leur marche dans le désert s'annonçait compliquée. Et effectivement, cela l'a été. Alors qu'ils étaient à la porte de posséder le pays, ils étaient à Kadès Barnéa, les rapports des hommes qui sont partis explorer le pays les effrayèrent. Ces hommes n'étaient pas n'importe qui. C'était les 12 espions des chefs des enfants d'Israël de chaque tribu. Des chefs des enfants d'Israël de chaque tribu. C'est-à-dire des hommes de confiance, des hommes qui avaient une certaine responsabilité Et donc, a priori, on pouvait dire qu'ils étaient des hommes de foi qui croyaient au message, ou à Moïse, qui croyaient à Moïse ou au message que Dieu avait donné à Moïse. Que dire-t-il? Au verset 27, nous voyons ce que les rapports des espions qui a été fait. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Éthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Les Cananéens, vous pouvez penser à Gaza. Gaza est au bord de la mer. Le rapport qu'ils ont fait était donc complet et détaillé. C'était donc un pays où la nourriture était abondante. C'est effectivement un pays où coule le lait et le miel. Le lait est produit par les animaux domestiques. Et les animaux domestiques se nourrissent des herbes. Le miel est produit par les abeilles à partir des fleurs. Ça veut dire que dans ces pays, la végétation y est abondante. C'est donc une terre fertile. Et la Bible elle-même dit que c'est une terre qui boit l'eau du ciel. Contrairement à l'Égypte où il fallait irriguer les terres. Donc, ce que Dieu a dit est vrai. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Et ça, Dieu ne leur avait pas dit ça. Les pays étaient habités par un peuple ou des peuples puissants, surtout les enfants d'Anak. La Bible témoigne que ce sont des géants, ou c'était des géants, de la race des géants. Et eux, Israël, je veux dire, étaient un peuple qui se croyait sans force. Et pourtant, ils ont vu les miracles d'Égypte. Ils n'avaient pas d'armée, ni des armes. C'est ce qu'ils pensaient en tout cas. Alors, comment allaient-ils vaincre ce peuple? Il y eut des murmures au milieu du peuple à cause de l'influence, particulièrement des 10 espions. Il y en a 2 qui ont dit que pour eux, il fallait conquérir le territoire. C'était Josué, fils de Nun, et Caleb. Et ils n'eurent pas peur de ce peuple. Dans leur esprit, parce qu'ils avaient la foi, ils étaient déjà vainqueurs. Par contre, pour les 10, non, ce n'était pas possible de vaincre ces géants. Au verset 30, il nous est dit, « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais le peuple qui y était allé avec lui dire, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Pourtant, les espions sont revenus. Ils n'ont pas été dévorés. Tout ce que nous y avons vu, enfin, ils étaient revenus, je voulais dire, parce que c'était des espions qui donnaient leur rapport ici. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et alors, s'ils ont une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Attention au rapport qu'on entend des hommes qui n'ont pas la foi. Cela va vous décourager. Il y avait donc 2 sur 12 qui crurent qu'ils peuvent s'emparer du pays. 2 sur 12, c'est environ 18%, je crois. Ça veut dire que, c'est bien ça, 18? Ça doit être aux alentours des 2. Disons environ 20% ont cru et 80% des espions doutèrent d'aller conquérir les pays. Et leurs doutes, ils contaminèrent leurs doutes à tout le peuple. Ça veut dire que la foi peut être contaminée, les doutes aussi peuvent être contaminés. Bien, donc je disais, il y a environ 80% qui sémèrent les doutes parmi le peuple. Et la question qu'on peut poser, qui a dit que la voix de la majorité était toujours la bonne? Le grand avantage de la voix de la majorité, cela évite les contestations, voire les révoltes, et réduit la prise de risques par les chefs. C'est le seul avantage. Cela est aussi vrai pour tout chrétien. Tu dois prendre parfois des décisions qui vont à l'encontre de la majorité. Il faut avoir le courage de les faire, tant que tu sais que c'est la volonté de Dieu. Et donc, connais Dieu et tu ne seras pas influencé par tous ceux qui veulent t'influencer. Pour un chrétien, ce n'est pas la voix de la majorité qui compte, mais c'est ce que Dieu a dit. La foi ne s'embarrasse pas de la majorité. Si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. Et là, comme tous les peuples maintenant étaient contre les deux espions, en tout cas les rapports des deux autres espions, Josué et Caleb, une révolte était en préparation contre le fait d'aller combattre ces géants. La peur vous fait faire parfois des choses horribles. Et donc, souvent la peur manifeste l'incrédulité. Si nous lisons Nombre 14, j'espère que j'ai la bonne référence. Oui, je crois que c'est 14. Toute l'assemblée, donc au premier verset, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ?» Il venait d'échapper à une armée puissante, l'armée de Pharaon. Et ici, il pense que Dieu est incapable de les secourir. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Devant les difficultés qui se présentent dans la marche, beaucoup ont tendance à faire marche arrière, car nous aimons le confort immédiat. Mais bien souvent, nous ne regardons pas plus loin, ou alors nous ne voyons pas plus loin. Et nous voulons rester soit dans le statu quo, ne changeons rien, comme cette publicité de Belgacom qui disait, « Mieux vaut rester là où l'on est. » Mais Dieu t'appelle à aller plus loin. Ou alors, la peur te pousse à mal agir, car elle te fait perdre souvent les discernements. Et tu vas dire, je retourne à mes vieilles habitudes, à mon ancienne vie, car je crois ces habitudes plus sécurisantes. J'ai prié et encore prié, et Dieu ne m'a pas exaucé. nous manquons ici l'opportunité d'avancer avec Dieu. Et souvent dans ces cas, on devient aigri. Luc 9, verset 62 nous dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Les difficultés ne sont pas une raison pour abandonner ou fuir, mais elles sont là pour tester à quel niveau se trouve notre foi. Et si elle est solide, elle va te propulser à un autre niveau dans ton expérience avec Dieu. La révolte était donc en marche au point où ils n'ont plus voulu que Moïse soit leur chef, car eux, ils voulaient rentrer en Égypte. La solution, c'est quoi? Nommer un nouveau chef. C'est en réalité un non-sens. Pourquoi? Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Qui va leur ouvrir de nouveau la mer Rouge pour rentrer en Égypte? Dans ce cas, ils ne pouvaient pas aller de l'avant et ils ne pouvaient pas non plus retourner en Égypte. Ça veut dire qu'ils seraient enfermés dans les déserts. Bien. Il voulait donc nommer un chef. Et ils sont tous morts dans les déserts, blasés et prisonniers de leur passé et pleins de regrets. Pourtant, le passé est passé. Il faut aller de l'avant et affronter les défis de chaque jour. La nourriture de l'Égypte était bonne pour l'Égypte, mais pas pour les déserts. Dans le désert, cela ne leur aurait pas permis de résister aux conditions du désert. La nourriture du désert pour soutenir leur marche était la manne. Ce n'était pas une nourriture qui venait de la terre, mais du ciel. Celui qui était dans le désert et qui ne voulait pas manger de la manne mourait dans le désert. En réalité, personne n'a poussé qui que ce soit à sortir de l'Égypte. Mais si tu es sorti de l'Égypte et si tu vas vers la terre promise, c'est Dieu qui contrôle ton régime alimentaire. Celui qui physiquement est sorti du désert mais n'a pas sorti l'Égypte de son cœur, mourra dans le désert. Je répète, celui qui physiquement est sorti du désert, mais n'a pas sorti l'Égypte de son cœur, mourra dans le désert. À cause de leur incrédulité, Dieu, dans sa colère, a voulu les exterminer par la peste pour commencer une nouvelle nation avec Moïse. Moïse va intercéder pour le peuple et Dieu va pardonner leur iniquité. Mais la sentence de Dieu est restée la même, la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. On peut lire dans Nombre 14, à partir du verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Il dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ?» J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ces déserts. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants, dont vous avez dit ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants pèteront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Lorsqu'on regarde ces textes, ou lorsqu'on lit aussi la marche, en tout cas le début de la marche des enfants d'Israël, ils avaient l'habitude de se plaindre tout le temps. Ils pleurnichaient à tout moment. C'est l'attitude des enfants. Et le Seigneur dit, l'ancienne génération devait mourir dans les déserts. L'ancienne génération est le type du vieil homme. Il doit mourir. Dieu va élever une nouvelle génération qui entrera dans le pays. Il y a un Jourdain à traverser. Et la traversée du Jourdain les introduisit dans la terre promise. La terre promise a ses réalités comme l'Égypte ou le désert en ont les leurs. Aussitôt entré dans le pays, la manne, c'est ça. Ça, on peut voir ça dans Josué 5, à partir du verset 10. Donc, si on regarde, on a... on a l'Égypte, on a le désert, et on a la terre promise, Canaan. Lisons. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Bien. Donc, en Égypte, ils avaient de la viande, du poisson, la viande, du poisson, concombre, oignon et tout ce qu'on a lu là. Dans les déserts, ils avaient la manne. Et dans la terre promise, ils ont le blé et d'autres fruits. Peut-être on dira ça plus tard. En fait, si vous regardez bien, la manne tombée du ciel, ça veut dire Dieu les nourrissait. C'est Dieu qui les nourrissait. Ça, c'est l'attitude des enfants. On les nourrit. Lorsqu'ils sont rentrés en Canaan, si vous continuez à lire, vous verrez que là, ils devaient travailler. les enfants sont nourris, les parents ou les adultes, et ils doivent travailler. Et Dieu n'aime pas les paresseux. Il n'aime vraiment pas les paresseux. Il y a un temps où tu es nourri, mais il y a un temps où tu dois aller toi-même travailler. Ici, le seul effort qu'il devait fournir, c'est aller ramasser. C'est le seul effort. Ils allaient ramasser la manne. En Égypte, c'était la servitude. Hein. Pharaon les nourrissait parce qu'il avait un intérêt à les nourrir bien pour le travail dans le royaume. Ici, nous avons vu que la circoncision ôte et efface définitivement l'opprobre de l'Égypte. L'Éternel ayant roulé au-dessus de cet opprobre d'Égypte. Donc ils mangèrent la Pâque et ils mangèrent les blés du pays, du pain sans levain et du grain. Et la manne, c'est ça. La nourriture du désert ne convenait plus pour la terre promise, car il y a d'autres défis qui exigent une nourriture à hauteur de ces défis. Voilà la nourriture. Voici la nourriture de la terre promise qui est appropriée aux conditions de la terre promise. Ça, nous pouvons lire ça dans Deutéronome 8, à partir du verset 7. Deutéronome 8, à partir du verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays des cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, pays d'olivier et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassaseras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Remarquez ici, la plupart, tout ce qu'on lit là, ce sont des fruits. Et au début, si vous lisez dans Genèse, c'est ce que Dieu avait donné à l'homme pour manger. Il s'agit donc de manger les fruits du pays. Pour ça, ils doivent cultiver la terre. Comme je disais tout à l'heure, la terre promise n'est pas pour les paresseux, tu dois travailler. Finis la manne qui tombait du ciel où Dieu te nourrissait sans que tu aies à travailler, sinon à aller ramasser pour le chef de famille, c'était qu'il devait ramasser sa portion pour lui et pour sa famille. La terre promise est une terre bénie et il n'est pas de raison qu'elle ne produise pas en abondance. Alors, travaille et Dieu bénira ton travail. Seule la désobéissance mettra en péril toutes tes bénédictions. Mais il y avait une chose qu'il fallait faire d'abord, c'était qu'il fallait conquérir le pays pour le posséder. Et qui dit conquérir, dit faire la guerre. Et la guerre, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour des hommes faits, des hommes mûrs. Des hommes capables de manier les armes avec sagesse et intelligence. Des hommes capables de déjouer les ruses de l'ennemi. Ça, c'est la condition de l'homme spirituel. Il travaille pour le royaume de Dieu. Donc, on avait vu il y a quelque temps que l'apôtre Paul parlait de l'homme animal, de l'homme charnel, et de l'homme spirituel. Et donc, dans le désert, c'est l'homme charnel. C'est là qu'on apprend à obéir à Dieu, à se dépouiller petit à petit de l'Égypte. Ça, c'est le désert. Et lorsque vous traversez le Jourdain, ici c'est le Jourdain, Dieu ôte l'opprobre d'Égypte. Ça veut dire que tu ne vis plus selon la façon de vivre des Égyptiens. Celui qui est charnel, il vit encore un peu, tantôt il vit comme Dieu le veut, tantôt il vit comme d'Égypte. Et je me faisais une réflexion, c'est, je me disais que l'Égypte, c'est comme les voitures thermiques, hein, les voitures à essence. Aujourd'hui, ces voitures sont condamnées, ils polluent l'atmosphère. Alors, ils ont trouvé autre chose, ils ont dit, ils ont trouvé la voiture hybride. Ils polluent moins, mais ils polluent quand même. Et il y a une partie qui fonctionne à l'électricité. Donc, tu as l'électricité et tu as aussi un peu de sens. Ça veut dire que celui-là, c'est un mixte. Tantôt il est dans le Seigneur, il vit comme Dieu le veut, tantôt il vit comme il veut. Mais quand on arrive ici, on est tout électrique. Ça veut dire que ici tu vis en Dieu et pour Dieu. Là, tu es, comment dirais-je, tantôt à gauche, tantôt à droite. Mais là, c'est vraiment c'est Dieu qui est ton guide. Et donc, on voit que l'Égypte correspond à l'homme animal, le désert correspond à l'homme charnel, c'est là où Dieu donne la loi. La loi, ça veut dire que tu commences à t'aligner sur la loi. Et quand tu arrives dans la terre promise, tu vis la vie de Dieu. Bien. Continuons. Je disais que dans la terre promise, c'est la guerre. Et la guerre n'est pas pour les enfants. Et si on lit dans Josué 5, à partir du verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Ceci nous rappelle l'épisode du buisson ardent. La mission pour Moïse au buisson ardent, qui lui fut confiée, c'était d'aller faire sortir le peuple de la servitude. Et la seule arme que Dieu lui a donnée, c'était les bâtons. Comme le frère Branham le dit, c'est l'invasion d'un seul homme. Et l'Égypte a fini par céder. Le peuple est sorti. Ici, nous voyons le chef de l'armée de l'Éternel avec l'épée nue dans sa main. Ça veut dire qu'il venait garantir à Josué le succès dans les combats qu'il entreprenait pour la conquête du pays. Parce que Josué, c'est lui qui avait la mission de faire entrer les pays, les enfants d'Israël, dans la terre promise et de les établir chacun dans chaque tribu dans son territoire. Et là, Josué ne devait pas combattre seul. Il avait un appui certain. Quelle assurance d'avoir Dieu avec soi. Que ce soit les bâtons comme arme ou l'épée, c'est Dieu qui contrôle tout et qui donne la victoire. Les stratégies de guerre ne sont pas les mêmes. Cela dépend du terrain, de l'ennemi que tu combats et des forces disponibles. Mais si tu combats avec Dieu, la victoire est certaine. Nous pouvons encore voir l'autre cas, c'est le cas dans le désert contre les enfants d'Israël contre Amalek. La stratégie que Dieu leur a donnée, c'est que Moïse devait garder les mains levées pendant que Josué combattait, et c'était le secret de la victoire d'Israël. les mains de Moïse levées. Avec Édom, Dieu a utilisé une autre stratégie. C'était le contournement. Ils n'avaient pas besoin de confronter leurs frères. La leçon qu'on tire ici, c'est que il faut se laisser conduire par Dieu. Il te donnera la stratégie appropriée pour vaincre. Il n'y a pas une seule stratégie pour dire parce qu'on a fait comme ça, alors ça doit être comme ça pour que la personne soit guérie ou que cette situation soit réglée. C'est Dieu qui vous instruit, qui vous montre ce qui convient de faire. C'est pourquoi parfois certaines solutions peuvent paraître farfelues, mais c'est la solution de Dieu. On va terminer. Je vais sauter les choses. Bien, donc, on voit que Dieu a pourvu pour chaque situation ou pour chaque région la nourriture qu'il faut pour pouvoir avancer. La nourriture d'Égypte n'est pas appropriée pour les enfants de Dieu. La nourriture d'Égypte n'est pas appropriée pour les déserts. La nourriture du désert n'est pas appropriée pour la terre promise. Et ici, on peut voir ce que l'apôtre Paul dit, c'est que les enfants ont besoin du lait, mais les hommes faits ont besoin de la nourriture solide. Mais c'est un cheminement, c'est pas que tu commences à manger la nourriture solide. Ça, c'est une progression, comme tout enfant qui naît commence par le lait, ensuite il va commencer à manger la nourriture solide. C'est exactement la même chose que Dieu fait avec nous. Et de nouveau, ce n'est pas les mêmes stratégies qui sont utilisées. Dieu, c'est lui qui donne la stratégie à utiliser si vous voulez vaincre. Ne pas appliquer la même recette pour tout. Il faut être conduit tout simplement par Dieu. Pour terminer, si pour l'Égypte il y a un certain type de nourriture, pour le désert il y a un autre type et pour la terre promise il y en a un autre, on doit se souvenir que Dieu a aussi en réserve pour chaque âge un type de nourriture. Et cette nourriture-là, c'est ce qui te permet de combattre pour vaincre. Au temps de Noé, les problèmes qui se posaient en ces temps-là, Dieu a envoyé Noé avec un message. Le message, c'est qu'il devait construire une arche. Et tout celui qui y entrait avait la vie sauve. Celui qui acceptait le message de Noé et qui entrait dans l'arche était sauvé. Au temps d'Élie, pour affronter les problèmes qui se posaient en Israël, Élie est venu avec un message. Ceux qui ont cru à son message ont été épargnés. Il y a eu la confrontation au mont Carmel, mais Dieu n'a pas envoyé le déluge. Au temps de Jean-Baptiste, Dieu lui a donné un message et quiconque croyait à son message avait le privilège de reconnaître l'agneau de Dieu parce que Jean-Baptiste l'a présenté. Ainsi, à chaque âge, il y a un message. Marche avec la lumière de ton temps et tu vaincras les problèmes de ton temps. Mange la nourriture de ton temps et tu seras fortifié dans la foi pour vaincre les problèmes de ton temps. En notre temps, les problèmes de notre temps trouvent solution, non en allant écouter les messages de Moïse, mais en écoutant les messages de ces temps-ci. Et c'est ce dont nous avons besoin, c'est dont nous avons réellement besoin, c'est le baptême dans l'Esprit, parce que nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit. C'est ce baptême puissant dont nous avons besoin. Et un message a été envoyé. Le message du temps de la fin est venu pour nous aider à affronter les problèmes du temps de la fin. Chacun sait où il en est, quel type de nourriture il mange. Que chacun puisse se sonder qu'il puisse examiner et voir où est-ce qu'il en est avec le Seigneur. Parce que le type de nourriture que tu manges te montrera si tu es encore en Égypte, si tu es dans le désert ou si tu es dans la terre promise. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Bien-aimé Père, tu es celui qui nous nourrit. Par pourvu, Père éternel, au travers des âges, la nourriture, Père. Et cette nourriture, Père éternel, au Dieu, où chaque âge a permis à ceux de cet âge-là de vaincre les problèmes de l'âge. Il en est de même aujourd'hui, Père éternel, au Dieu. Il y a tant de combats, Père éternel, au Dieu, en ces temps, Père éternel. Le temps de Noé n'est pas le temps que nous vivons maintenant, même si, Père éternel, au Dieu, le péché, au Dieu de miséricorde, s'est intensifié, Père éternel. Les ténèbres sont devenues de plus en plus épaisses. Et pour cela, Père, tu as envoyé un message. Un message, Père éternel, au Dieu, qui nous montre, Père éternel, au Dieu, où est le véritable abri, où est le véritable refuge. C'est pourquoi, au Dieu de miséricorde, nous venons à toi. Au Dieu reconnaissant, Père éternel, au Dieu de miséricorde, que ce que tu nous donnes, Père éternel, au Dieu, montre, Père éternel, l'âge que nous avons en toi. C'est un cheminement, Père éternel, au Dieu, et certainement, Père éternel, au Dieu, chacun de nous a besoin, Père éternel, au Dieu, de la nourriture de son âge, Père éternel, pour grandir, Père éternel, au Dieu, et au Dieu de paix, arriver, Père éternel, à être au service des autres, Père éternel, au Dieu. Car le but, Père éternel, c'est servir les autres. Et comme le frère le disait, c'est le bien-être universel. Oui, Père éternel, c'est le but de l'homme, servir. Servir les autres, Père éternel, dans la volonté de Dieu. Ainsi, nous te bénissons, Père, au Dieu, pour tout ce que tu nous donnes, Père. Et nous croyons que tu nous aideras encore davantage, Père éternel, au Dieu. Merci, Père éternel, au Dieu, de nous aider encore pour la suite. Car sans toi, que pouvons-nous faire, Père éternel, au Dieu? C'est toi qui éclaires nos vies. C'est toi, Père éternel, au Dieu, qui guide, au Dieu, nos vies, Père éternel. Nous nous attendons à toi, Père. Merci pour cette grâce, nous accorder de partager ces quelques moments. Maintenant, raccompagne chacun de nous, Père. Que la paix de Dieu soit dans chaque cœur, Père éternel. Reçois honneur, louange et gloire dans le nom béni de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.